Okapi. 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 Okapi.
Henri, bonjour.
Bonjour Walter, bonjour à tous nos auditeurs.
Henri, dites-nous, comment se déroulent les activités du programme désarmement réinsertion communautaire en Litourie?
Vous le disiez Walter, le programme de désarmement réinsertion communautaire qui a débuté au mois de septembre de l'année dernière se poursuit sur les 4 sites disséminés à travers Bounia, notamment à Mouzipela, Rouampara, Simbiliabo et Yambiaya. Pour ce qui est du centre de transit de Yambiaya qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est depuis le 4 février de cette année que les activités ont commencé.
Il y a 2 semaines.
Selon Jean-Louis Moulumba, gestionnaire au Conader, plus d'une trentaine des ex-miliciens se sont enregistrés dans ce centre. 16 viennent de quitter ce centre pour leur insertion communautaire. Peinés à leur arrivée, un kit d'entrée est remis à chacun d'entre eux. Il s'agit d'une assiette, d'un verre, d'une paire de chaussures, d'un pantalon et j'en passe. À la sortie du site, ils reçoivent un autre kit composé d'un poster radio pour suivre Radio Capi pour la sensibilisation. Ils reçoivent également un bidon de 15 litres, une casserole et un montant de $50.
Alors, pouvez-vous nous dire, Henri Lebondo, quelle est l'attitude des ex-combattants lorsqu'ils arrivent au centre de transit?
Il faut comprendre, Walter, que quand ils viennent, ils sont des combattants. Sans que je ne puisse me prononcer, Walter, imaginez le comportement qu'il doit avoir un milicien qui sort fraîchement de la brousse. C'est ensuite quand ils entrent dans le site qu'ils deviennent ex-miliciens. Devenir ex-milicien est un processus qui amène à ce que les encadreurs puissent beaucoup plus travailler sur leur comportement afin de les amener à comprendre l'importance de la paix ainsi que de la reconstruction. À ce point précis, écoutez Jean-Louis Moulumba, gestionnaire au Conader.
Quand ils viennent, ils sont un peu dans une brutalité que nous trouvons tout à fait normale parce qu'ils sortent chaudement de leur milieu en tant que combattants, en tant que miliciens. Mais au fil du temps, nous nous adaptons à leur comportement, nous faisons un effort pour le ramener à notre comportement afin que quand ils sortent, que ça puisse être des porteurs de messages pour la paix.
Voilà, on vient d'entendre le grand objectif finalement de ce programme. Mais dites-nous, Henri Lebondo, l'ex-combattant sort du site, il redevient civil. Comment cela se passe-t-il?
À sa sortie, l'ex-milicien reçoit l'original de certificat de désarmement qui prouve que c'est un citoyen qui a déposé l'arme. Il est aussi porteur d'une carte infalsifiable qui, en fait, est une preuve tangible de comment il a rendu l'arme.
Alors, au final, il est prévu une réinsertion communautaire pour chacun d'eux. Que deviennent-ils dans la vie civile au sein de la communauté?
À cette question, Walter, je dirais que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Certains préfèrent continuer sous le drapeau en prenant l'arme officiellement au travers de l'armée nationale congolaise. D'autres, par contre, embrassent les activités qu'ils voudraient réaliser.
Alors, comment s'est fait la remise des armes? Revenons sur cette étape assez importante qui est celle de rendre une arme et de ne plus la récupérer après. Est-ce que c'est par contrainte ou c'est de la volonté de leurs combattants, je voudrais dire, de son propre gré?
Pour la plupart de ces ex-combattants du site de transit de Yambiaya que j'ai rencontré, ce n'est pas par contrainte qu'ils ont remis les armes. Ils le font volontairement. En plus, ils se disent contents d'abandonner les armes, car les temps n'est plus à la guerre, disent-ils. Selon nos sources, Walter, nombreux sont ceux qui veulent déposer les armes. Mais ils ont peur, parce que la justice même de leurs groupes armés semble être l'élimination physique de la personne qui va à l'encontre des instructions de leurs dirigeants. Toutefois, ceux qui ont eu le courage de déposer les armes gardent une préoccupation. Leur sécurité, bien sûr, par le gouvernement.
Nous sommes en train de douter vraiment sur notre sécurité. Les 5 jours que nous avons passés au site, on a beaucoup posé la question à nos professeurs qui nous enseignaient, en tout cas, de faire tout pour bien assurer notre sécurité. C'est ça, nous demandons en tout cas au gouvernement congolais de veiller à notre sécurité pour que nous puissions rentrer dans la paix, vivre avec les parents, c'est-à-dire dans la communauté.
Et voilà, un appel, c'est important. Nous aurons d'ici là le vice-ministre à la démobilisation et ancien combattant, Monsieur Delmambo, avec qui on pourra reprendre notamment cette question, cette préoccupation de sécurité pour qu'ils ne soient plus récupérés ou happés ou inquiétés par leurs anciens chefs de milice. Henri Lobondo, merci beaucoup. On doit dire que nous remercions aussi André Kitenge avec qui vous avez travaillé sur le dossier. Nous saluons en passant tous les ex-combattants, tous ceux qui se trouvent dans tous les sites de démobilisation qui nous écoutent maintenant à Bounia, et nous encourageons ceux qui hésitent encore à venir déposer leurs armes au centre des transits pour reprendre une vie normale. Henri Lobondo, merci beaucoup.
À moi de vous remercier, Walter.
Monsieur Delmambo, bonjour.
Bonjour.
Voilà, nous avons attendu certains démobilisables ou certains ex-combattants en cours de démobilisation dire que c'est un bon programme, mais il y avait quand même une petite inquiétude. Ils souhaiteraient être vraiment sécurisés par le gouvernement pour ne pas être récupérés par les anciens chefs de guerre.
Oui, des inquiétudes. Il ne peut pas y avoir des inquiétudes. Vous êtes un programme qui est suivi, surveillé, contrôlé et maintenant en exécution. Comme vous l'avez suivi, d'abord il fallait résoudre certains problèmes qui étaient d'ordre politique. Et on l'a fait avec l'acceptation des leaders politiques à des grades supérieurs, des grades militaires. Et maintenant là, il ne reste plus que pour les combattants qui vont eux aussi. Pour ceux qui ont la vocation, des aptitudes répondant aux critères d'aller dans l'armée, vont être intégrés. Et pour les autres qui ne pourront pas répondre aux différents critères de l'intégration de l'armée, ils vont aller à la vie civile, mais en passant par les activités du développement communautaire qui sont en train de se réaliser maintenant sur le terrain, par des organisations auxquelles nous avons confié cette responsabilité, notamment l'UNICEF, le PNUD et le GTZ. Ils sont sur le terrain et ils vont exécuter le travail. Aucune inquiétude ne peut régner à ce moment ici dans le cadre de la réinsertion, parce que tous les combattants vont être récupérés dans les activités de développement communautaire, un moment que l'on va impliquer la communauté locale.
Les auditeurs peuvent réagir posant des questions. Ce n'est pas tous les jours que nous avons le vice-ministre en direct maintenant. Ils peuvent poser des questions au 081 890 63 94. Monsieur le vice-ministre, le programme DRC, démobilisation et réinsertion communautaire en Ituri, a été lancé voici près d'un an. Sur les 15 000 démobilisables, seulement 3 000 combattants ont rendu les armes. À votre avis, est-ce que c'est un bon résultat ou pas?
C'est un bon résultat. Vous savez, tout le programme que nous lançons, nous le faisons dans le cadre du processus. Le programme peut être défini selon le temps du départ, mais il reste un processus. Vous savez que la sensibilisation est en train de se faire en ce moment d'une façon transversale. Et nous pensons que les résultats qu'on a atteints jusqu'à aujourd'hui, c'est un résultat admirable. Le travail continue et nous pensons, avec l'implication de tout le monde, la population, la communauté d'une façon générale, comme les structures locales, la société civile, et ainsi que les leaders qui hier prenaient les éléments combattants en otage, aujourd'hui, je crois, avec la solution que le gouvernement venait de trouver, nous pensons que tout le monde va s'impliquer et va sensibiliser les ex-combattants à aller dans ces activités-là. 3 000. C'est déjà beaucoup et nous comptons faire plus, cela grâce à la sensibilisation. C'est comme ça que nous vous demandons, surtout vous qui êtes de la presse, de vous impliquer dans cette sensibilisation pour que ça puisse atteindre tout le monde, que tout le monde comprenne, bien fondé de la réinsertion, pour que nous puissions rétablir la paix, nous puissions rétablir la sécurité et la réunification dans cette partie de la République démocratique du Congo, à savoir l'Ituri.
Monsieur le vice-ministre Delmambo, je vais vous proposer d'écouter un ancien combattant qui est actuellement dans un centre de transit à Bounia.
Nous sommes en train de douter vraiment sur nos sécurités. Les cinq jours que nous avons passés au site, on a beaucoup posé la question à nos professeurs qui nous enseignaient en tout cas de faire tout pour bien assurer notre sécurité. C'est ça, nous demandons en tout cas au gouvernement congolais de veiller à notre sécurité pour que nous puissions rentrer dans la paix, vivre avec les parents, c'est-à-dire dans la communauté.
Monsieur le vice-ministre, que répondez-vous à cet ancien combattant?
D'abord, nous les félicitons d'avoir quitté son statut de combattant comme tous les autres qui l'ont fait comme lui. Mais en plus, je le rassure à tous, en commençant par lui, que la sécurité de ceux qui sortent est justement dans nos préoccupations. Et nous avons la brigade qui se trouve là-bas sur place et qui est appuyée par la MONUC. Et comme vous veniez de le suivre avant-hier, encore la police s'est déployée. Tout cela, c'est pour la sécurité de toute la population, particulièrement de ceux-là qui se démobilisent et qui désarment, que cette sécurité puisse être bien assurée. Donc l'inquiétude qu'il est en train d'exprimer était fondée il y a quelques mois, mais aujourd'hui, selon les dispositions que le gouvernement est en train de prendre, c'est en train justement d'être éloigné totalement parce que dans la partie d'Ituri, et les autorités politico-administratives et les structures de sécurité, police et militaire, ils sont là avec l'accompagnement de la MONUC pour assurer cette sécurité-là. Donc pas d'inquiétude du tout, qu'ils soient rassurés que le gouvernement sera toujours avec eux pour leur assurer cette sécurité dont ils ont besoin.
Monsieur le vice-ministre, la sécurité durable, je veux dire la sécurité sociale et communautaire de ces anciens combattants, c'est qu'ils arrivent à maîtriser toutes les techniques d'activités communautaires qui leur seront apprises, question d'être autonomes dans la vie civile, qu'ils ne soient pas tentés de recourir à des manœuvres, si vous voulez, d'intimidation sur les autres membres de la communauté. Qu'est-ce qui est fait comme programme pour que ces anciens combattants ressortent des centres déjà préparés pour affronter par eux-mêmes et par leur force, leur travail, la vie communautaire?
Mais pour assurer cela, c'est justement la permanence et la pérennité des différentes activités que sont en train d'organiser les différents organismes que je viens de citer tout à l'heure dans cette contrée-là. Et nous pensons que les activités prioritaires sont d'abord les activités pour remettre les infrastructures routières, et il y a des activités dans ce secteur-là. Ensuite, il y a des activités qui vont permettre l'échange entre les différentes populations selon les différentes contrées de ce district. Ainsi, même après, quand le projet va se terminer, une route qui est réparée, elle restera toujours et va se transformer en une préoccupation de la population pour qu'à tout moment, on puisse entretenir cette route-là qui relie différentes localités. Et ceci va contribuer non seulement au développement dans le cadre de la production, mais ça va permettre les populations à pouvoir se rapprocher, à communiquer entre elles. Mmh. Et ensuite, nous avons les activités de production, c'est-à-dire les activités d'échange, des petites négoces, comme les activités agricoles qui vont s'installer. Et nous savons que nos populations paysannes sont justement habituées à ce genre d'activités. Ça va devenir des activités quotidiennes, des activités ordinaires dans leur vie. Et avec tout cela, nous pensons effectivement que la vie socio-économique pourra effectivement reprendre dans cette contrée.
Monsieur le vice-ministre, au-delà du cas particulier de l'Ituri où se fait ce programme de démobilisation et réinsertion communautaire, il y a ce vaste programme autour du CONADER, la démobilisation et la réinsertion de façon générale au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. On observe quand même deux tendances. À chaque fois que les sensibilisateurs vont dans les camps militaires ou dans certaines villes, il y a d'abord la catégorie des blessés de guerre qui ne comprend pas, qui s'inquiète, qui dit qu'on est prêt peut-être à les rejeter alors qu'ils ont rendu des bons et loyaux services à la nation. On l'a entendu tout récemment lors de l'étape de Kisangani. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces blessés de guerre, démobilisables, qui ont des doutes?
Vous savez, nous sommes un gouvernement, et un gouvernement est là particulièrement pour le bien-être de la population. Et le gouvernement ne peut pas, et en aucun cas, aller exposer un citoyen de ce pays ici à la mort. Nous savons qu'il y a des turbulences sur notre territoire, et d'une façon naturelle, nous nous préparons à tout moment, comme tous les autres États du monde, à pouvoir faire face à toute éventualité. Dans l'armée, on va pour se préparer à la guerre. Et la guerre, comme vous savez, et les exigences de la guerre, ça correspond aux combattants qui sont en bonne santé, qui sont aptes. C'est de cette manière-là, nous, pour tous ces fils et filles de notre pays, de la République démocratique du Congo, qui par leur engagement antérieur ont connu soit des infirmités, par l'effet des bombes, des éclats de bombes, ou des balles qui les ont perforées, nous ne pouvons pas aujourd'hui, tout en étant conscient qu'ils ont des aptitudes diminuées, nous ne pouvons pas aller les mettre sur des listes de combattants qui, en cas de nécessité, doivent aller au front. Ça serait vraiment pour nous, en tant que gouvernement, une irresponsabilité d'aller exposer ces gens infirmes, ces gens qui vaillamment ont défendu le pays dans le passé, les soumettre encore à des épreuves d'une guerre et de combattants. C'est de cette manière-là, que de la même manière que pour les malades chroniques, que pour les enfants, que pour les personnes du troisième âge, nous, selon notre sens de responsabilité en tant que gouvernement, nous devons les extraire. Mais alors, en les extrayant, ça ne veut pas dire que nous allons les laisser dans une situation indigne. Non, bien au contraire, nous allons les réinsérer pour que la République puisse se servir d'eux d'une autre manière.
Comment allez-vous les réinsérer?
Et nous allons les réinsérer en leur apprenant un autre métier. Hier, ils avaient la profession des armes, le métier des armes, mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo, tout en reconnaissant d'autres aptitudes en eux, nous allons les reconditionner pour qu'ils puissent dans leur vie, le reste de leur vie, exercer un autre métier, de sorte qu'ils puissent se prendre en charge. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, pour ceux qui sont de la carrière ancienne, dans la carrière militaire, et ceux qui avaient choisi cela comme métier, et voilà aujourd'hui qu'ils sont handicapés par des infirmités que nous sommes en train d'observer, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons le prendre du côté de la pension. Donc ils vont être retraités comme tous les autres, et bien sûr d'une façon prématurée pour ceux qui sont aujourd'hui dans les infirmités, pour que de nouveau, en plus des bénéfices de la démobilisation, ils puissent aussi bénéficier de leur rente de service, c'est-à-dire leur retraite comme tout autre agent de carrière de l'État.
Mais monsieur le vice-ministre, ce qui leur fait peur, c'est lorsqu'ils regardent les vrais anciens combattants, ces grands-pères qui ont des médailles de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale et tout, quand ils les observent, ils se disent, donc si nous voulons nous démobiliser, nous allons être comme ces cocos qu'on n'a plus pas aujourd'hui, qu'on voit presque abandonnés. C'est ça leur crainte.
Mais non, mais ils ne sont justement pas abandonnés. Ils ont d'abord un plus, c'est-à-dire, comme je venais de dire, ils ont les bénéfices de la démobilisation, en plus ils auront leur retraite. Mais quand je vous entends dire que les anciens combattants sont abandonnés, ils ne sont pas abandonnés, ils sont dans les mêmes conditions que les autres agents de carrière de l'État. Sauf que maintenant, bien sûr, comme le président de la République venait de promulguer la loi de l'Organisation Générale de la Défense et des Forces Armées, et nous sommes en train de voir comment on peut dégager d'autres lois spécifiques pour arriver à améliorer leur statut, les statuts des militaires, la profession des armes étant une profession spéciale. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui les anciens combattants ne sont pas du tout délaissés, pas du tout, ils sont assistés, ils sont pris en charge par l'État, et demain nous pensons qu'en améliorant les statuts du combattant, les statuts de l'ancien combattant aussi devraient être améliorés. Et nous est en signe de reconnaissance, puisque nous savons que si nous ne prenons pas en charge ces gens, nous ne les soignons pas, nous allons démotiver ceux qui sont encore sous le drapeau et qui considèrent ceux-là qui sont pensionnés comme étant une référence, un modèle. Et s'ils ne sont pas bien, bien entretenus, ça risque de les décourager. Donc nous sommes bien conscients de cela au gouvernement et nous sommes en train de s'atteler pour que les choses puissent aller dans le sens des murs.
Voilà, Monsieur Delmambo, je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes le vice-ministre en charge des anciens combattants et des mobilisations. Je vous remercie d'être intervenu en direct pour la première fois dans cette émission au Capi Action. Nous comptons sur votre disponibilité au regard du vaste programme que vous avez à gérer dans le gouvernement de transition de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup et bonne chance dans vos programmes.
Merci beaucoup, bon travail. Bonne journée.
Merci. Une réaction de l'auditeur de Lubumbashi par rapport à la démobilisation, Pierre Kamoy. S'il est difficile d'indemniser les enseignants, les médecins, etc., sera-t-il facile de prendre en charge les anciens combattants? Cela pourrait durer combien de temps? Autant de questions qu'on posera à M. Delmambo, vice-ministre. On va le retrouver très prochainement, évidemment, dans nos éditions de production de ce magazine au Capi Action. On va changer de chapitre, on quitte les démobilisés pour entrer dans une autre réalité. Je dis bonjour.
Bonjour Walter.
Alors, les activités de la société Covadis sont donc à l'arrêt depuis près d'une année. Qu'est-ce qui était à la base de la faillite de cette très grande société de planification industrielle?
Vous savez Walter que la société Covadis faisait la fierté de notre pays avec ses pains prisés par plus d'un Congolais. Et certaines personnes, d'ailleurs, dans les milieux, dans les provinces, demandaient à leurs frères en séjour à Kinshasa de ramener à tout prix du pain à Covadis.
Oui, c'est quelque chose quand mon grand frère Achille, qui est à Goma, qui venait à Kin, si ça n'arrivait pas, c'était terrible.
Non, c'était du pain que tout le monde appréciait pour sa qualité.
Oui, oui.
Il y en avait de plusieurs types. Vous avez les pistolets, les carrés, vous avez les grands carrés et autres. Mm. Mais hélas, les Congolais ne pourront plus manger du pain Covadis. C'est Kovo, comme aimait bien les appeler les Quinois. Mm. Donc la société est tombée en faillite depuis le 16 janvier 2004, d'après certains travailleurs. Tout est parti avec le décès du propriétaire, M. Yangos Papadopoulos, un sujet grec. Alors voilà,
la petite histoire. Le problème, ouais. Papadopoulos, il doit se retourner dans sa tombe, ces grands messieurs. Mais alors, Johnny, dites-nous, depuis quand est-ce que monsieur Papadopoulos avait créé cette société? Une petite histoire.
Ben, cette société existe depuis les années 50, bien avant l'indépendance de notre pays. Elle a commencé d'abord en Banzangungu et puis dans la province du Bas-Congo. Et puis la société, par après, elle a été installée ici même à Kinshasa.
Elle est passée de fonctionner vers la grande poste, oui. Elle a été changée jusqu'à échouer définitivement à la deuxième rue Limité. C'est Léonard Moulamba qui me rappelait ça hier, parce que ça l'intéressait aussi. Alors, donc, tout est parti du décès du propriétaire.
Tout à fait. Donc, le père mort, il laisse la gestion de l'entreprise à sa fille. Donc, Madame Niki, qui était donc l'héritière. Alors, d'après nos sources, celle-ci a brillé par la mégestion, une mégestion caractérisée de l'entreprise. Écoutons à ce sujet le témoignage de cet ancien travailleur de Covadis.
À l'époque, il y a M. Papa, Langos, Papa de Polos. Ils ont acquis bien, ils ont marché bien. Pour tout le monde, si je suis là, je suis là, Avant, moi, je suis là, je suis là, bingana ba shira bazala kiwana basa ko shira chini seta kise na mademoiselle Iftaria kubanda na bango bakinde suti kibangi ya besi pe batika kiba nyongo mingi apati ya potu bo tango ikumi ba nyongo suti seresu babanda ko reporte farine ba reklama kimbongo tango madame wana ye ameki aluka ko reporte farine batu wana bakangi mbongo na nyongo wana azali sona mwemo susu ya kutinda mbongo ya farinte. Magri sa, me azali na mbongo kaka. Azali na mwe kaka ki a kontinu susu akende. Te ayi kuzwa jira mususu mese Moise. Moise tanga ayi atali. Amoni ke non, si kwa susu zana ngo boye, soto kontinu liza mabe. Apesa ki madane salere, haba na kuzwa salere. Po amona kindenge azuzwa mbongo, azali malamute. Ako bima wakene entera kuya kuzunga azui $5,000 ya ke. $5,000 ya ke. À mon avis, non, soit salaire pour tout banda, aucun malam. À partir de là, baisse banda qui à partir de là.
un témoignage d'un ancien travailleur de Covadis, il faut le reconnaître, le rappeler. Covadis, c'était une géante, j'allais dire une mastodonte de la planification industrielle dans notre pays. Je dis, est-ce que vous avez réussi à avoir une idée de ce qu'était la production journalière de Covadis?
Covadis produisait beaucoup de pain par jour. Et le vendredi, par exemple, la société produisait presque le double des autres jours. Donc c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de pain. Alors à ce sujet, écoutons les témoignages de ces travailleurs.
Les jours ordinaires, ce que j'appelle jours ordinaires, c'est par exemple le dimanche jusqu'à jeudi. Tandis que le vendredi, on avait la production marathon. Donc ça prenait, par exemple, la production de 2 jours, parce que la société n'ouvrait pas les samedis. Alors pour les jours ordinaires que j'ai cités, ce n'était pas moins de 30-40 000 dollars par jour. Mais pour la journée marathon, c'est-à-dire le vendredi, on faisait parfois 3 fois, même 5 fois, les montants de la production journalière.
Combien de pain par jour?
Les pains, non, c'était trop. Des fois, les jours ordinaires, c'était 6 000 bahts, 7 000 bahts. Mais les jours marathon, des fois, on arrivait même jusqu'à 22 000 bahts. Moi-même, j'étais là. Non, il y avait des pistolets, il y avait des baguettes, il y avait des carrés et tout et tout. Bon, les tout était calculé au prix de plus de 5 dollars le bac.
Souvenir d'une grande activité de l'époque. Il suffisait de passer déjà au niveau de la deuxième rue, quand vous êtes sur le petit boulevard Lumumba. Vous commencez à sentir bon parfum.
Vous voyez quand même, vous apercevez le bâtiment imposant.
Mais oui, les bâtiments imposants encore là. Ouais. Et en face, il y avait des stands où on vendait des boissons sucrées. Quand tu veux manger du pain chaud avec ton... Enfin, c'est une nostalgie. Oui, évidemment. Donc on sait que cette société disposait d'un genre automobile aussi important pour la distribution de pain à travers la ville. Et on sait qu'il y avait aussi des vendeuses, des revendeuses de pain qui allaient s'approvisionner dans les dépôts ou à l'usine. Est-ce que vous avez rencontré quelques revendeuses, quelques mamans qui ont scolarisé les enfants, qui ont tenu leur ménage grâce à ce pain Covadis?
Oui, j'ai rencontré une maman qui continue d'ailleurs à vendre du pain aujourd'hui, même si Covadis a déjà fermé. Alors, ce ne sont que des regrets. Elle regrette vraiment que cette société ait fermé à ces jours. Écoutons son témoignage.
Si quoi comme on peut coco bonde la coquille la la passe n'est autre côté car ben victoire et koya et pas c'était la couture anglaise les divoires les centrales qu'on va dire les kaki nagu na esaleni nagu na kitoko eleki et bien bagaté on a tant sans amour bimochi ango et bien bagaté ni pas qu'on va dire bien bagaté nous roulons la pondo madessu soso misignon sur linga et ça a goût.
No comment. Je dis, vous rigolez aussi. Donc on sait quand même que cette société employait beaucoup de gens. Avec sa fermeture, qui sont devenus ces anciens travailleurs des Covadis?
La plupart des travailleurs sont aujourd'hui réduits au chômage. Et ayant accumulé 6 mois d'arriéré des salaires, certains travailleurs avaient observé à l'époque un mouvement de grève de 2 mois pour entrer, pour exiger le paiement de leur salaire. Et c'était à l'époque où les activités tournaient déjà au ralenti. Donc c'était l'occasion indiquée pour l'employeur de les mettre à la porte. Aujourd'hui, ils traversent une situation difficile, comme l'affirment ces travailleurs que nous avons interrogés.
Nous vivons dans une situation pénible. Tu vois, dans ces pays, il faut qu'il y ait du travail. Même si on se débrouille avant de petit à petit, mais vous voyez que travailler au sein d'une société, c'est quand même rentable. À la fin du mois, vous savez que je vais percevoir autant. Mais on peut vendre, mais tu ne peux pas aboutir à ce que tu vas recevoir à la fin du mois. On se débrouille en vendant des petites choses à la maison. Vous voyez là, les arachides, soit des maïs, tant de choses qu'on voit.
Kakana a parti à Wana, batu bakufa ki bili na ben motion. Ba travers Covadis, ba comment kola na ba église, ba travers Covadis. Donc moi exacte ma balle kufa, tenir to souffrir lelo. Tous ana moi mo soir au salati. Ba sala tout possible ba te kabiso ko zetoyo, ba futa biso ba mbongo na biso to sale. Lokola ngai, vendeza mo bimba. Nazana mo nazana bana, nazana locataire, nazo souffrir liboyi. Soko moi c'est à dégoûter moi exacte. bana batanga kati bakonzi mboka bateka société oyo machine ezali makamo sotu ezali muntu soko asombi yango akosala batravaye bazali soki ko apprendre mapa tokolamba mapa ba spécialiste bazali bakonzi na biso tout bazali batravaye tout bazali tokosala.
Mais voilà, un appel, hein, ça c'est pratiquement un appel au secours pour que ça reprenne à tourner au sein de cette usine, parce que tout l'outil des productions est là, c'est tout, si j'ai bien bonne mémoire, les problèmes avaient commencé à partir d'une gestion et puis on ne pouvait plus amener des intrants.
Des intrants.
Évidemment, mais l'outil de travail existe encore. Alors, nous avons appris qu'une partie de la concession Covadis a été vendue aux enchères samedi 19 février dernier sur exécution d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Matete. Est-ce que les travailleurs licenciés tous vont bénéficier de cette vente?
Au fait, un groupe de quatre travailleurs de Covadis avait porté plainte contre leur employeur depuis le 24 février 2000 pour licenciement abusif. Alors, 5 ans après, le tribunal a rendu un jugement en faveur de ces travailleurs qui doivent être dédommagés. Alors, cependant, il y a un autre dossier en cours au tribunal pénal, au tribunal de grande instance de Matete. Donc, c'est un dossier qui concerne 426 autres travailleurs de Covadis qui sont en attente d'un jugement du tribunal par rapport à la plainte qu'ils ont déposée contre l'employeur Covadis.
Mais voilà, c'est donc en cours. Si l'entreprise reprenait et si les activités reprenaient, ces gens-là, tous ces procès pourraient, n'est-ce pas, finir d'une bonne manière. Merci Jody pour toutes ces informations. On va se quitter quand même pour un petit mot de culture générale. Covadis, qu'est-ce que ça veut dire?
Covadis est un mot latin qui signifie où vas-tu. Donc c'est à l'époque, vous vous rappelez, on pouvait lire sur les véhicules, les chars automobiles de Covadis, il était écrit Covadis chez nous, chez vous. Donc ça veut dire que monsieur Papadopoulos, il y a Yangos Papadopoulos, il était chez nous au Congo, n'est-ce pas, pour nous servir du bon pain.
Voilà. Très bien, merci. Covadis, c'est aussi le titre d'un grand film qui relate la traite, si vous voulez, la persécution des premiers chrétiens, notamment Saint-Paul, Saint-Pierre, qui avait été crucifié, brûlé au grand cirque Maxime à Rome, sous le règne de l'empereur Néron.
Mais voilà, ça c'est de l'histoire.
Évidemment. Je dis merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous allons recevoir tout à l'heure un des quatre travailleurs qui vont être dédommagés. Il s'agit de M. Kabangutumba. Merci beaucoup et à très bientôt.
Ok, merci Walter.
M. Kabangutumba, bonjour.
Oui.
Bonjour.
C'est M. Kabangutumba, je suis à l'écoute.
Oui, oui, voilà. Moi aussi, je vous écoute, les auditeurs aussi. Alors, vous venez de gagner un procès contre Covadis. C'est une bonne nouvelle pour vous.
Oui, nous avons été en procès contre la société Covadis, ça fait 5 ans, ça a vraiment duré. Nous avons commencé d'abord à l'inspection du travail, où les gains de cause nous ont été donnés par les inspecteurs. C'est là, bon, ils n'ont pas voulu accepter ce qui leur avait été proposé. Et finalement, nous avons saisi le tribunal de grande instance à Matete, et ça nous a pris presque 2 ans, et quelque chose comme 28 audiences. Là, on a connu vraiment ce monde-là de justice, vraiment un monde pourri, avec les avocats qui se font les avocats du diable et qui défendaient n'importe quoi, qui ont fait du n'importe quoi, que nous avons vécu, Dieu merci. Bon, nous avons gagné malgré tout ce qu'ils avaient entrepris comme manœuvre dilatoire et consort. Et bon, quand nous avons gagné, on leur a demandé de nous payer, ce qui, comme l'image d'intérêt et tout, bon, ils n'ont pas voulu, ils ont interjeté l'appel jusqu'à la cour d'appel, et là-bas, et on a fait presque une année, et puis le premier jugement a été confirmé, c'est ainsi que, bon, c'était déjà vers fin 2003, et nous nous sommes rentrés encore au tribunal de grande instance de Matete pour l'exécution, et ça nous a pris une année et quelques 3-4 mois, et voici que, bon, le 19, le samedi, nous sommes rentrés dans nos droits parce que leur immeuble que nous avons fait saisir d'une manière légale, toute la procédure de la saisie immobilière respectée et épuisée, et voilà que nous avons vendu. Et l'État congolais, le tribunal, par le truchement du tribunal de grande instance Matete, a vendu.
C'est comme on dit, aussi longtemps que dure la nuit, le jour finit quand même par arriver, M. Kabangou.
Oui.
Dites-nous, est-ce que cette victoire judiciaire, quand bien même qui a pris beaucoup de temps pour vous, vous redonne espoir en la vie? Qu'est-ce que vous faisiez d'abord à l'époque à Covadis? Quel travail faisiez-vous?
Le travail que moi j'ai fait.
Que tu faisais à Covadis à l'époque?
Bon, à la Covadis, je suis resté à la Covadis pendant presque 15 ans. Donc au mois de juin, je devais déjà accomplir 15 ans. Quand j'étais engagé à la Covadis, j'ai fait les études universitaires, supérieures et universitaires. Donc quand je suis arrivé à la Covadis, comme c'est une boîte où il y a, hein, vous voyez ce qu'ils sont, les Grecs, ils m'ont pris là d'abord comme manœuvre ordinaire. Bon, deux, trois mois après, j'ai été chef, c'est-à-dire contrôleur des programmes production. Huit mois après, bon, j'étais maintenant envoyé au service de livraison. Et là-bas, j'étais presque au rang d'un cadre maîtrise. Et quelques temps après, j'étais là-bas comme livraire. Je suis devenu chef de livraire, chef d'équipe de livraire. Et après, bon, jusqu'à mon départ, j'étais contrôleur des DAC.
Mais il y a au moins 400 autres agents, 426 anciens travailleurs de Covadis qui ont aussi porté plainte et qui sont en attente d'un jugement à rendre par les tribunaux. Qu'est-ce que vous leur conseillez à ces 426 agents qui attendent comme vous?
Bon, mes amis, je crois, vous qui me suivez, moi c'est celui que vous avez appelé le professeur Caban, c'est moi qui vous parle. Serrez la ceinture, sachez bien que la justice, même s'ils disent qu'il n'y a pas de justice dans ce pays, mais il y en a. Vous m'avez vu lutter, vous m'avez vu me battre. Vous aussi, vous avez la victoire parce que les verdicts sont en train déjà de tomber. Je vous dis que vous allez gagner. C'est lui qui nous avait fait partir tous. Monsieur Ngouvoul, il est lui aussi avec vous. Sachez que la justice est là, vous allez gagner, quelle que soit la longueur du temps. La vérité restera toujours la vérité, elle est têtue et nous avons gagné. Et voilà, vous aussi, vous avez toutes ces chances-là, vous allez gagner.
Mais Monsieur Kabangou, revenons à l'essentiel. Covadis est en faillite aujourd'hui, mais l'outil de travail, nous avons appris que l'outil de travail existe encore. Vous qui avez travaillé là-bas pendant au moins 15 ans, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut reprendre les activités de Covadis pour qu'il y ait du travail pour d'autres personnes? Michel Chirimwami, bonjour.
Bonjour Walter.
Michel, pouvez-vous nous faire le point sur l'absence des latrines publiques à Bukavu, disons-le, une ville actuellement en pleine explosion démographique? Quelle pourrait être l'incidence sur la santé publique de ce manque d'installations sanitaires et lieux d'aisance? Est-ce que la situation est aussi alarmante que vous nous l'avez dit tout à l'heure pendant qu'on se briefait?
Oui, Walter, il y a de quoi sonner l'alarme sur une triste réalité comme celle-là. À part trois latrines publiques qui sont actuellement en usage, notamment celles installées au marché de Kadutu, les gens ont perdu l'habitude de fréquenter les lieux d'aisance, même dans les lieux les plus fréquentés, les quartiers les plus peuplés ou les artères de grande affluence. En tout cas, ça souffre d'un manque criant de lieux d'aisance. C'est la vie de cette jeune fille qui constate avec dégoût l'habitude des gens qui se soulagent vaille que vaille dans des petits coins, faute de structures sanitaires adéquates. Écoutez.
Ce que je constate, vous trouverez des hommes en cours de route en train d'uriner sous les arbres. Les autres sont même en train de salir les maisons partout en ville. Même ici, l'État ne songe pas à cela. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il faut faire pour régler cette situation. Ceux qui vont se charger de cela, je pense que c'est l'État qui est à la base de tout cela. Parce que même ici, à la commune d'Ibanda, vous trouverez des latrines sont sales et l'État ne songe pas à cela. Même au marché, en cours de route, vous trouverez, je ne sais pas, des gens en train d'uriner et cela peut aussi nous causer de la maladie. Maintenant, il faut construire des latrines et il faut aussi mettre des champs pour garder ces latrines, les nettoyer chaque jour et mettre aussi de l'eau, des régies, des eaux à côté.
Lorsqu'on faisait la télévision, on disait parfois arrêt sur image. Ici, on peut dire arrêt sur son. S'il vous plaît, monsieur ou madame, si vous nous écoutez maintenant et que vous êtes en train d'uriner sur la voie publique, arrêtez, s'il vous plaît. Ce n'est pas bon. Bon, enfin, on revient à Michel, on continue l'émission. On vient d'entendre ce constat malheureux de cette jeune femme. Que préconisent les services spécialisés en hygiène publique, notamment celui de l'environnement? Est-ce que le problème est véritablement pris au sérieux ou quoi? Mais quelle est la réaction face à la persistance d'un tel problème à Bukavu, Michel Chirimwami?
Oui, Walter, nous avons contacté le service de l'environnement qui, selon le bureau urbain de l'inspection de la santé, a reçu mandat de se préoccuper de cette question dans le cadre de l'eau et assainissement, cadre de lutte contre les maladies épidémiques. Le service de l'environnement, par le biais des agents que nous avons contactés à la coordination de l'environnement, déplore l'état de la situation et évoque le manque de moyens mis à leur disposition pour une prise en charge. Mais dans l'entretemps, on rappelle que la ville de Bukavu était jadis dotée d'installations sanitaires suffisantes et bien entretenues. Depuis le long règne de Mobutu, tout est malheureusement tombé en moule, d'autres ont été détruits et d'autres anarchiquement occupés par des tiers. Madame Madeleine Bouengue est chef de bureau à la coordination de l'environnement et conservation de la nature. Nous l'avons contactée, elle évoque ici le passé en ce sens.
Il est un fait que la ville de Bukavu était doté jadis d'une organisation sanitaire non négligeable. Plus de 400 agents sanitaires sillonnaient les rues et les parcelles. Ces agents-là débouchaient les caniveaux et les égouts. Ils évacuaient même les immondices. Ils assuraient régulièrement la propreté de latrines publiques. Pour le cas des latrines publiques, à Kadutu, on avait 4 latrines, notamment au quartier Kibongé, au marché de Kadutu, au quartier Nyamugo BCB et au quartier Maengue. Pour la commune d'Ibanda, il existait 6 latrines publiques, une latrine au fer rouge, 2 à la botte, une au marché Nyawera et 2 à Ngouba. On avait également 2 latrines sur l'axe place de l'indépendance et à Bouindi. Et une autre latrine était située au marché de Bagira, soit 13 latrines au total. Présentement, seules 3 latrines publiques sont en bon état. Nous pouvons citer celles installées dans le marché de Kadutu, Ngouba et Nyawera.
Vous avez entendu beaucoup de choses être dites au passé, un passé nostalgique qui fait rêver évidemment. Mais que dire actuellement de la persistance du besoin de doter Bukavu de ses installations sanitaires à la hauteur des besoins du moment et du prestige même du fait de vivre à Bukavu? Michel Tchirmoumi, est-ce que l'on peut définir aujourd'hui les besoins pour une ville comme Bukavu? Est-ce qu'on est conscient au niveau des services compétents de ce qui devrait se faire en situation normale?
Oui, Walter, le même service chargé de la question, tout en définissant le rôle des latrines publiques, fait remarquer qu'il y aurait lieu de desservir certains quartiers populaires par des installations à exploitation communautaire. Innocent Baourissire Bikaya est chef de cellule à la coordination de l'environnement, il évoque ces faits.
Nous avons besoin de latrines et nous aider à assainir les. Ça nous permet de combattre les multiples maladies endémiques et épidémiques, comme elle vient de le signaler tout de suite là, le choléra, la fièvre typhoïde, et la dysenterie, etc. Les familles de Bukavu ne disposent pas de latrines, peuvent s'en servir. On peut aussi construire sous forme de blocs sanitaires dans les quartiers. Et chaque famille peut avoir une porte sur ce bloc sanitaire. C'est pour pallier aux problèmes qui se posent dans les quartiers les plus denses, parce qu'on a constaté que dans certains quartiers, il y a plus de 8 maisons qui n'ont pas de latrines. Les latrines sont au service des voyageurs, les passants, les travailleurs qui font de plusieurs kilomètres pour atteindre les lieux de service, les touristes. Et surtout les malades. Il y a des gens qui souffrent de maladies, ils ne peuvent pas se retenir pendant longtemps. Et c'est la raison pour laquelle ils doivent contacter les latrines publiques.
Autant de constats, j'ai parlé de quelqu'un d'autre. C'est un prénom plutôt celui-là. Mais enfin, on constate malheureusement avec amertume ce manque de latrines publiques à Bukavu. Des questions, Michel. Est-ce qu'il y a un plan urbanistique de la ville qui répond à ces besoins en prenant en considération les 4 communes qui composent la ville de Bukavu, touristique d'ailleurs, rappelons-le, ancienne capitale de la province du Kivu? Est-ce qu'on peut savoir où devraient être placées, construites, si vous voulez, les latrines publiques dans les axes relativement importants?
Oui, ce sont les mêmes services compétents que nous avons contactés et selon eux, il y avait dans le temps des sites bien ciblés pour l'érection de latrines publiques. Notre invité est là pour nous en dire plus, surtout sur les besoins du moment, mais les services spécialisés au niveau provincial nous ont dit les sites qui devaient abriter les lieux des anses en question. Nous revenons à notre interlocuteur de tout de suite pour nous en définir.
Normalement, chaque lieu public doit avoir une latrine publique. Les stades, les ronds-points, les écoles, les églises, les services de l'État, les hôpitaux, etc. Tous les lieux publics doivent avoir au moins une latrine. Au marché de Kadutu, il y a une seule latrine. C'est insuffisant puisque nous avons plus de 3000 marchands. Il faut au moins 2 à 3 latrines. Au marché Mwanzi, il y a une petite latrine. Il faut au moins 3. Au marché Kafu, à Brasserie, il n'y en a plus. Il faut encore une latrine. Au marché de Bagira, une latrine bien entretenue. Celle qui est là n'est pas bien entretenue. Elle est souvent bouchée. Et de l'imanga à Bagira, ces deux limangas doivent avoir des latrines. À Kadutu, il y a encore 2 petits marchés. Il y a le marché Limanga de Kasali et l'autre marché de Chimpunda. Les deux petits marchés doivent avoir des latrines. Si les axes routiers, on doit placer également les latrines sur une distance de 200 à 300 mètres. Également, il faut placer les latrines publiques et ici en ville, sur des avenues, il faut des latrines publiques.
Mais voilà, il faut le faire, mais oui, c'est vrai, il faut le faire. Mon Dieu, quelqu'un aurait dit quelque chose d'autre par rapport à ça. Mais Michel Tirmanui, on va finir. Vous avez parlé avec quelques habitants de Bukavu, vous avez probablement recueilli quelques souhaits, on a entendu une jeune femme tout à l'heure. Quels sont-ils ces souhaits en rapport avec cette question de manque de latrines publiques?
Walter, comme vous le dites, la question vraiment de la crise publique, c'est une question vitale. On a parlé des malades qui ne peuvent pas se contenir, car ce n'est pas rare de voir des personnes aussi propriétaires des parcelles afficher quelque part une menace du genre. Ici, ce n'est pas une place pour se soulager. Interdit de se soulager ici, celui qu'on attrapera n'aura qu'à s'en prendre à lui-même. Donc la santé publique, on dirait plus, lorsque l'on parle de la pollution de l'environnement avec ce que cela entraîne comme épidémie, et on en est aujourd'hui à cette triste réalité, la propagation du choléra a été signalée les mois passés dans la ville de Bukavu. C'est donc quand on doit dire le slogan « prévenir que guérir » a tout son pesant d'or.
Et voilà, Michel Tchirmami, merci beaucoup, au revoir et à la prochaine. Je rappelle à ceux qui me suivent, parce que je sais qu'il y a des gens qui gardent les postes radio assez grandement ouverts, à un volume assez élevé. S'il y a quelqu'un qui est en train de se soulager sur la voie publique maintenant, qu'il arrête, il y va de la santé publique de tous les passants. Merci Michel.
Au revoir Walter.
Au revoir, au revoir. Monsieur Mathieu Rougouillet, bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Je vais bien, et vous-même?
Non, ça va très bien également. Nous sommes ici dans la ville de Bukavu.
Comment font les passants qui sont sur les voies publiques actuellement? S'ils sont pris par un besoin urgent physiologique, où est-ce qu'ils peuvent se soulager à Bukavu?
Oui, s'il vous plaît, si vous pouvez reprendre la question.
Où peuvent se soulager les passants sur les voies publiques à Bukavu s'ils sont pris par un besoin urgent?
Les voies publiques, comme toutes les autres villes de la République démocratique du Congo, bon, il est vrai qu'il y a des encombrements, des fois sur certaines affaires, il n'y a pas de latrine publique. En fait, ça fait partie de nos préoccupations quotidiennes.
Mais alors, si vous dites que ça fait partie de vos préoccupations quotidiennes, est-ce que vous avez un plan ou un projet pour doter Bukavu de latrine publique?
Oui, mais il est vrai qu'on a un projet là-dessus. Il y a une latrine publique qui a été déjà construite par la commune du côté de la Botte. La construction n'est pas encore achevée, mais on construit. Mais il est à noter sur ce dossier-là que certains services de l'État, notamment les familles, ne nous ont pas tellement aidés. Parce qu'il y avait des parcelles qui autrefois servaient de la crime publique qui ont été cédées et servent maintenant comme des maisons de résidence.
Est-ce que vous avez, vous pouvez retrouver sur l'ancienne carte de administrative de la ville de Bukavu les endroits précis où étaient situées des latrines publiques? C'est vous, les gestionnaires de la ville, vous pouvez utiliser votre autorité en tant que gestionnaire public pour récupérer ces endroits et mettre à l'aise tous les habitants de Bukavu.
Oui, ben, en fait, il y avait une parcelle du côté du marché de Niawera. Pour le moment, on y a construit un hôtel. Il y avait une autre une côté de collège, un citoyen y a construit une maison résidente. Voilà, ça pose des problèmes. Mais nous étions à réunion avec le service d'hygiène et l'environnement de la ville, surtout dans le cadre de mettre fin à des maladies comme le choléra, qui sont pratiquement récurrentes. Nous avons réfléchi sur ce dossier et nous avons identifié d'autres endroits où nous pouvons éventuellement placer l'action publique.
Mmh. C'est-à-dire, à quand vous avez identifié les sites, c'est une bonne chose. Alors, deuxième question que je pose pour évoluer par rapport à ces dossiers, combien de latrines publiques seront construites à peu près à Bukavu?
Bon, nous sommes en train de négocier avec certaines maisons de bonne volonté qui se disent qu'ils vont nous aider. Notamment bon, ceux qui interviennent dans cette lutte contre le choléra. Ils nous ont promis de le faire. Nous attendons également, nous-mêmes, comme entité, nous allons nous impliquer pour trouver une solution.
On sait que la ville de Bukavu, à l'époque, avait des latrines publiques qui ont été mal gérées, abandonnées jusqu'à disparaître. Donc le problème, une chose est d'avoir des latrines publiques, mais l'autre chose, c'est la gestion quotidienne de ces latrines publiques, de sorte que ça reste longtemps au service des populations. Est-ce que vous pensez aussi à cette question-là de la gestion des latrines publiques?
Ouais, non, le problème ne se pose pas en termes de gestion. C'est le problème qui se pose, c'est l'inexistence
oui.
actuellement de ces latrines publiques.
Mm-hmm.
Ah, mais la gestion, bon, si, en fait, ce sont des entités qui gèrent les latrines publiques. Même la gestion est reprise dans leur budget pour les entités qui ont des latrines publiques.
Mm-hmm. Mais pourquoi avoir attendu beaucoup d'années qu'il y ait le choléra qui s'annonce pour penser que, tiens, il faut qu'on ait de la traîne publique?
Non, on n'a pas pensé à cela parce qu'il y a le choléra, non, mais c'est un projet de depuis longtemps. Comme dans la commune du Banda, il y a une latrine qui a été construite il y a 2 ans, bah, il se pose un problème de moyens. Parce qu'il manque juste l'eau, je crois, la fosse septique.
Alors, c'est ma dernière question, monsieur le maire. Les auditeurs à Bukavu nous écoutent maintenant. Une question se pose. À quand les latrines publiques à Bukavu?
Nous sommes en train de penser que dans une année, on aura fait quelque chose. Parce que il y a une réalité de la ville ici, il y a des quartiers, comme du côté de Nyamugo, où carrément on trouve des maisons qui n'ont même pas de latrine. Alors pour toutes, où ils n'ont même pas de parcelles où ils peuvent construire une latrine. Alors on s'occupe de quartiers comme celui-là pour qu'on essaie d'avoir une parcelle où on mettrait une latrine publique. Dieu merci que de ce côté de Nyamugo, il y a le CODES, c'est une ONG qui a construit la cité publique en amont du pont Kibongé. Maintenant, une partie de la population est desservie par cette action publique-là.
Eh bien, on suivra ce qui va se passer à Bukavu. Bukavu, c'est pas loin. En termes d'onde, c'est une seconde. Nous sommes à Bukavu parce qu'on y parle en temps réel. Je rappelle, Monsieur Mathieu Rougouillet, que vous êtes le maire de la ville de Bukavu, que vous venez de promettre que d'ici un an, vous aurez fait quelque chose en termes de latrines publiques pour les habitants de Bukavu. Merci beaucoup d'avoir été en direct sur Radio Okapi et dans ce magazine Okapi Action.
Ok, merci beaucoup. Merci.
Merci. Julien, bonjour.
Bonjour à terre, bonjour à tous.
Première question, situation géographique de Ilebo, est-ce que vous pouvez nous la donner et nous faire une brève carte d'identité de la cité de Ilebo?
Oui, écoutez Walter, ce qu'il faut dire, c'est que Ilebo, qu'on appelait autrefois Port Franqui, est une bourgade d'environ 100 000 habitants. Et d'après les chiffres officiels, cette bourgade, disais-je, est l'une des cités du Kasaï occidental, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, c'est-à-dire Ilebo. Il est situé au bord de la rivière Kasaï, à 420 km au nord de Kananga. C'est une cité importante, vous l'avez dit il y a quelques instants. Ilebo a donc une position stratégique dans la mesure où il relie l'ouest du pays à partir de Kinshasa et l'est à partir de Kananga, Mbujimayi et Lubumbashi.
Mmh. Alors si on comprend bien, Ilebo représente une importance économique capitale pour les Kasaï occidentales. On pourrait même dire que Ilebo c'est une charnière du développement de la province.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Dans la mesure où, à la belle époque, on peut prendre un exemple simple, le cuivre, aussi bien que d'autres minéraux produits au Katanga transités par Ilebo, grâce au chemin de fer de la SNCC, Société Nationale de Chemin de Fer du Congo, qui relie de l'Est à l'Ouest par la voie fluviale. Plusieurs activités se sont développées dans la région. La présence des grandes entreprises du pays, comme l'ONATRA, l'Office National de Transport, la SNCC, la Société Nationale de Chemin de Fer, GECAMINE et toutes les autres sociétés pétrolières à Ilebo expliquent justement l'importance de cette cité.
Alors, la cité est importante, c'est un passage obligé pour les grands tonnages, lorsqu'on ne peut pas les convoyer par avion, ça se comprend, c'est la voie de soi. Il y a un problème, Ilebo n'en profite pas de cette situation stratégique. Et c'est là que nous en revenons à l'affaire du bac Ilebo. Qu'est-ce que la population de la contrée réclame à cor et à cri? Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement? Comment en est-on arrivé là, au fait que ce bac est cloué comme ça sur le port?
Oui, pour la petite histoire, d'après le collectif des ONG de développement d'Ilebo, au moment où l'AFDL, l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, avançait, et particulièrement lors de la chute d'Ilebo en février 1997, les troupes de l'AFDL ont emporté avec elles le bac. On s'interroge justement à Ilebo comment ces troupes ont eu cette ingénieuse idée, et si elle est ingénieuse, pour reprendre leur propre expression, je ne le pense pas pour l'instant pour ma part, d'emporter donc le bac qui jouait un rôle important dans l'économie d'Ilebo. Et je voudrais ajouter très rapidement que non seulement le bac d'Ilebo a été saboté à l'époque des faits, mais aussi celui de l'Audi et de Kessé ont subi donc le même sort. Alors, pour revenir très rapidement en ce qui concerne le bac d'Ilebo, ce bac a été abandonné sur la rivière Kasaï, quelque part à la frontière avec la province de Bandundu. C'est alors que l'office des routes est allé récupérer ce bac et l'a ramené au quai, et présentement ce bac se trouve, je peux même l'affirmer, et au quai à Ilebo en attendant les jours meilleurs.
Jeanine Amoni, nous avons appris qu'il y avait un autre bac qui était en réparation vers les années 93-94 au chantier naval de Bandundu. Où se trouve ce bac-là?
Écoutez Walter, c'est encore un problème. En fait, c'est justement ce bac que la population a tant réclamé. En fait, elle estime que ce bac était très performant par rapport à celui qui est en panne pour le moment. Ceci dit, ce bac avait été envoyé au chantier naval au Bandundu, l'office de route avait dû remplacer un autre. Après sa réparation, ce bac a été affecté ailleurs, donc personne à Ilebo, en tout cas, ne connaît où se trouve ce bac. Peut-être l'office de route, la direction provinciale pourra avoir une idée exacte, ou bien encore, l'office de route, donc la direction générale à Kinshasa pourra peut-être répondre un jour à cette question.
Question d'intérêt public, je ne la pose pas à vous Julien, mais je la pose à ceux qui nous écoutent, s'ils sont décideurs, quiconque aurait des informations sur l'endroit où se trouve ce bac-là, qu'il veuille bien nous le faire savoir, envoyer un message à action@radioocapi.net parce qu'il y va de la vie économique et du développement des deux Kasaï par rapport à partir de Ilebo, évidemment. Bon, alors, Julien, je reviens à vous. Si on peut faire les comptes, 8 ans déjà que ce bac est hors service, celui qui est au quai actuellement à Ilebo, peut-on dire que cette situation a paralysé l'activité économique autour de Ilebo?
Sans doute, l'activité économique a été paralysée complètement. Et la preuve, tous les restaurants, par exemple, qui faisaient le bonheur de nombreuses familles au point de la traversée sur les deux rives, n'existent plus. L'herbe a envahi tous les, comment dirais-je, toutes les routes, ce qui témoigne de l'absence prolongée des véhicules sur l'axe Ilebo-Kinshasa ou encore Ilebo-Tchikapa. En outre, les produits agricoles de cette contrée n'ont plus jamais été évacués. Les véhicules en provenance de Tchikapa ont également cessé d'arriver dans ces territoires voisins, l'un des greniers d'ailleurs du Kasaï occidental. Donc vous comprenez que l'activité économique qui était très prospère sur cette route qui mène vers Kinshasa ou vers Tchikapa un peu plus au sud, donc n'existe plus et donc et l'activité économique complètement paralysée parce que le véhicule qui faisait la route Kinshasa, Ilebo, Kananga, Lubumbashi ne le font plus jamais. Et donc ça fait exactement 8 ans, vous l'avez dit tout à l'heure Walter, et il se pose donc un problème économique pour les populations de cette contrée.
Alors pourquoi les travaux de réparation de ce bac n'ont jamais été initiés alors que l'office de route l'avait déjà ramené à quai?
C'est ça justement le problème d'après l'évaluation du bureau de l'office de route du Kasaï occidental. Il faut environ 150 000 dollars américains pour remettre à flot ces bacs. Mais aucune démarche n'a abouti. Peut-être la province du Kasaï occidental aurait fait quelque chose dans ce sens. D'après certaines sources proches du gouvernorat, le dossier du bac avait été inscrit au budget 2003, mais rien n'a été fait. Je ne pense pas que ce soit un problème de mauvaise foi des autorités provinciales, mais plutôt de moyens. Je ne pense pas que la province puisse mobiliser ce montant d'un coup pour remettre en service ce bac, d'où les yeux sont tournés et du côté du gouvernement. Il est également important d'ajouter que le bac décaissé, l'Audi, est toujours au Kasaï occidental, donc du côté du nord-est de Kananga, et ne sont pas non plus en service. Et vous savez que donc le territoire de Békissé était sous administration du RCD et il est beau sous administration du gouvernement, donc politiquement, il n'y a toujours pas eu réunification. D'où la nécessité, et c'est ce que dit le collectif des ONG, il faudrait que le bac Békissé, celui d'Ilebo, de l'Audi, qui ont été sabotés par l'AFDEL, soit remis en service. En ce moment-là, il y aura possibilité peut-être de la reprise économique dans toute cette région qui réunit quand même des populations, pas moins d'un million d'habitants.
Voilà, d'une part, on se plaint que les choses ne marchent pas, et de l'autre part, on ne veut pas remettre les outils qui produisent les richesses. Bon, enfin, merci Julien. Nous recevrons tout à l'heure Monsieur Frédéric Paul Kasonga, qui est directeur provincial de l'Office de route. Peut-être avec lui, on pourra avoir les dernières informations sur l'évolution du dossier de la remise en service de tous ces bacs-là, qui garantiraient une résurrection économique au Kasaï occidental. D'ici là, cher Julien, portez-vous bien et à la prochaine occasion sur nos ondes.
Merci à vous.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée. Okapi, active pour la paix.
J'ajoute, active pour le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. C'est ce que fait Okapi Action tous les jours. Monsieur Frédéric Paul Kasonga, bonjour.
Bonjour, monsieur Walter, je pense.
Oui, c'est Walter, évidemment, vous avez raison. Vous êtes directeur provincial de l'Office des routes. On se demande pourquoi les bacs ne sont pas opérationnels jusqu'aujourd'hui sur la rivière Kasaï.
Merci beaucoup pour la question. Ce n'est pas seulement le bac, parce que nous sommes dans la réunification. Il y a les routes qui ne vont pas du côté nord de la province, Bac Lodi, Bac BKC et BAC Kassai et BAC Guilebo sur le Kassai. Alors, ce n'est pas opérationnel parce qu'il a été saboté et on n'a pas eu l'occasion de le rétablir, signifie soit réparer et soit le remettre à flot. Mais c'est à queue et nous le gardons comme ça.
Monsieur Frédéric Paul Kassonga, je veux demander à quelqu'un qui est à côté de vous de baisser sensiblement la radio qui est dans la salle, dans le bureau où vous êtes, parce que ça fait un effet retour. Voilà, ok, on se comprend mieux. Mais pourquoi vous gardez à quai ces bacs alors qu'il faut les réparer très vite, de telle sorte qu'ils fassent son travail et qu'ils redonnent du tonus à l'économie autour de ces endroits que vous avez cités?
Effectivement, vous voyez, si ce n'est pas gardé par la mauvaise foi, l'office de route au niveau de la direction provinciale, nous avons fait des devis, des états de besoin, et la direction générale a répercuté ça à qui de droit, et ça n'a jamais été honoré. Alors, c'est ainsi que ce bac, à un moment donné, il est en dérive jusqu'à 20 km du Lébo. L'office de route et la direction générale ont fait démener avec nos amis de la marine, les militaires, ils nous ont facilité, nous avons traîné pour le retourner à Lébo. Mais présentement, les états de besoin présentés, ça n'a jamais été honoré. Et comment on va les construire ou bien on va les rétaper si on n'a pas de moyens? C'est le problème des moyens, M. Walter.
Mais on a dit qu'il vous faut environ 150 000 dollars. L'office des routes n'en a pas?
Office des routes, il reçoit un budget auprès du gouvernement. Office des routes n'en a pas. Il n'en a pas et les 150 000, si nous en avons, il y a deux facilités. On répare les deux moteurs qui ont été sabotés ou bien il y a acquisition de deux autres moteurs qu'on replace et on retouche le bac, on le met à flot.
Et ça pourrait être quand? Est-ce que vous avez peut-être des informations sur l'évolution du dossier au niveau de Kinshasa? Est-ce que c'est inscrit au budget? Est-ce que...
Bon, au niveau de la province, d'abord, le dossier est inscrit au budget. Et d'ailleurs, ça a commencé au budget 2003, 2004, bon, 2005 peut-être qu'ils ont répété. Bon, au niveau de la direction générale, c'est toujours la même chose, mais l'office de route n'a jamais été doté de moyens pour qu'ils puissent intervenir d'urgence. Ça devient un casse-tête pour nous et ça ne nous arrange pas. Et si on donne à l'office de route les moyens, c'est un problème de quelques mois et le trafic commence sur le Kassai et les deux bords, les deux rives seront soulagées comme il se doit.
Et voilà, Monsieur Frédéric Paul Kassonga, je rappelle que vous êtes directeur provincial de l'Office des routes pour le Kassai occidental. Nous allons continuer à répercuter vos appels et les attentes des populations autour de Ilebo et autour des décaissés pour que les bacs soient réparés. Merci beaucoup d'avoir été en direct dans Okapi Action. On vous souhaite bonne chance pour vos démarches.
Merci Okapi. Soyez toujours attentifs.
Merci beaucoup. Thank you.